Résonance sur Radio B. Alain Goudard, bienvenue à toutes et à tous. Résonance, une chambre d'écho, un réceptacle de ce qui se vit, s'entreprend, s'invente, s'expérimente, s'explore, se crée, se réfléchit, se pense. Une émission réalisée et mise en onde par Simon Deborme. On en parle dans Résonance. Aujourd'hui, je reçois à ce micro Lucien Guérinel, poète, compositeur. Le son, la musique comme le mot, la mélodie, la sonorité des mots ont attiré votre curiosité, votre envie de raconter, de dire, à travers le langage de la musique ou celui des mots, vos émotions, vos imaginaires, votre manière de lire le monde. Votre parcours et les chemins de la vie vous ont conduit de Grasse, où vous êtes né, à une enfance à Bizerte, en Tunisie, puis passé par Marseille, Paris, et depuis plusieurs années, vous résidez dans cette petite commune de Bourgogne, Saint-Bonnet-de-Joux, tout près de Cluny et de Mâcon. Il nous a suffi donc de traverser la Saône pour vous rendre visite et réaliser cet entretien. Bonjour Lucien Guérinel.
Bonjour Alain.
Merci d'avoir accepté cette invitation.
Mais c'est moi qui vous remercie de m'accueillir.
Résonance sur Radio B, aujourd'hui entretien à deux voix avec Lucien Guérinel. Et nous venons d'entendre une pièce pour piano intitulée « Espace éclaté ». C'est une pièce, Lucien Guérinel, que vous avez écrite, qui fait partie de tout un cycle, justement, donc pour les enfants. Il faut préciser que c'est Jean-Louis Roblin qui, ici, était au piano et qui a enregistré cette œuvre. Et d'avoir écrit aussi pour les enfants, c'est quelque chose aussi qui vous a toujours été, je dirais, importante aussi à vos yeux, d'écrire aussi ces pièces pour les jeunes, pour les jeunes musiciens.
Oui, important parce que nécessaire.
Oui.
On ne va pas se dévoyer d'entrée de jeu dans un monde qui ne fait que ça pour ne pas rendre hommage à la femme et à l'enfant. Donc la musique pour enfants et les compositeurs du monde entier en ont témoigné, reste une sorte de devoir premier. Mmh. Voilà, parce que La mesure de la richesse d'un événement se réfléchit, si vous voulez, à son origine. Et l'origine, c'est l'amour de l'enfant qui est l'amour fondamental de l'humanité. Et en tout cas, ça devrait être la pièce maîtresse. Et nous y restons fort attachés. Donc, musicalement, l'Europe en particulier a particulièrement magnifié la musique pour enfants. Mmh. Maintenant, que veut dire une musique pour enfants? Voilà, ça c'est une autre affaire, question, bien entendu. Mmh. Parce que ça ne veut pas dire forcément que ce soit quelque chose de comment dirais-je, de sous-réfléchi.
Oui.
Ou de quoi que ce soit. Il n'est pas question dans cet instant-là de mesurer la capacité intellectuelle, au sens primitif du terme, hein, de réfléchir à une construction, à un édifice, à une, comment dirais-je, à l'être même des choses, mais nous en sommes au niveau du sensationnel. Mmh. Le sensationnel étant quand même la chose primitive dans l'humanité, et ce n'est pas la moindre des vertus, parce que souvent elle dépasse l'autre.
Complètement.
Donc, en particulier quand il s'agit de l'enfant. Donc écrire pour l'enfant et la joie qui s'implique par le fait même qu'on songe à un enfant qui est la source de joie. Et ensuite, parce qu'il faut se préserver justement de tout ce qui pourrait détourner par un je ne sais quoi de roublardise de ce qu'on appelle l'esprit enfantin. Auquel je suis toujours attaché parce que je n'ai peut-être jamais décollé de cet état. Voilà. Alors donc, quand j'ai commencé à prétendre écrire de la musique, j'ai tout de suite pensé à des pièces pour enfants parce qu'elles ont l'avantage en général d'être très courtes. C'est une loi majeure, un critère. Et ensuite, parce que dans cet espace court, il faut, sinon définir, mais entrer
ouais.
dans un monde, hein, c'est bien de ça qu'il s'agit, qui est d'abord le nôtre, et puis qui nous semble nous en éloigner après, compte tenu de ce que chacun sait, les choses de la vie, comme on dit vulgairement. Et donc, pour en revenir à la musique de l'enfant, il ne faut pas se détacher de cet esprit-là, oui. Sinon ce n'est pas la peine d'en écrire. Alors, j'espère que mes petites tentatives dans ce sens-là n'ont pas dérogé à ce qu'on connaît de toutes les pièces pour enfants qui ont été écrites dans le monde, et en particulier dans notre monde. Et je me suis employé à, sous ma réserve personnelle, réserve autant dans le sens de réservoir, hein, dans ma réserve personnelle, de trouver les accents qui me semblent, à moi-même encore, les accents de ma propre enfance.
Oui, là c'est tout un petit cycle hein, de 12 pièces pour enfants que vous avez écrit entre 2010 et 2011. On pourrait citer Chemin de Ronde aussi également, on pourrait citer un autre cycle. 12 aussi micro-études. Également, vous avez écrit entre 1984 et 1990, toujours à destination aussi des enfants. Et puis aussi en 2013, 4 petites pièces, vraiment petites, que vous avez destinées là toujours aussi au piano. Mais on pourrait faire état que vous avez écrit pour des maîtrises d'enfants, qu'à certains moments donnés, il y a eu aussi des pièces où vous avez mélangé des chœurs d'enfants et des chœurs d'adultes. Voilà, l'écriture, hein, je pense notamment avec les contre-rimes pour cette maîtrise qu'il y avait donc avec Madame Pro voilà, sur Marseille, qui les a créées, ces contre-rimes. Voilà, il y a toujours ce souci aussi d'écrire pour ses enfants et puis de les emmener dans différents registres, effectivement, soit de la pratique vocale ou de la pratique instrumentale.
Voilà. C'est une promenade un peu forcée, mais même les autres sont forcés, puisque les enfants suivent toujours, ils ne précèdent pas, mais dans cette promenade forcée, donc le mot étant là pour un peu sourire, hein, par ironie, on ne force personne, et j'espère bien, même pas les enfants.
En tout cas, c'est une magnifique interprétation par Jean-Louis Roblin, qui souligne, c'est important de le signaler, qui est un interprète qui a beaucoup servi votre musique, donc sur multiples pièces d'ailleurs. Et
c'est un interprète de premier ordre, même s'il ne tient pas ce rang-là, dans une société qui a d'autres distractions. Mais pour moi, ma rencontre avec lui est une rencontre comme la vôtre, avec vous, donc une rencontre première et donc essentielle de ma vie, et ce garçon a un talent très avéré qui aurait mérité mieux à mon avis sur le plan dit social, mais en tout cas il a enregistré l'intégrale de mon œuvre de piano, ce dont je le félicite, et puis surtout ce dont je le félicite lui-même, parce qu'il a véritablement l'état d'esprit.
C'est ça, oui, tout à fait. Et on le sent d'ailleurs dans la manière dont
c'est quand même une question d'état d'esprit avant de mettre des doigts.
Oui,
les doigts, comme on dit, ils suivent. Hein. Bon, mais ils suivent parce que nous sommes les maîtres. Mais il faut qu'il y ait dans l'esprit ce rayon.
C'est vrai que le piano a été aussi votre entrée en musique. Hein. Vous
tout
avez aussi appris le piano étant enfant. Votre mère jouait aussi du piano.
Tout à fait.
Hein, donc le cocon familial aussi était une manière de rencontrer
voilà,
aussi
cette
univers.
C'est la petite baignoire d'origine et on ne peut pas l'oublier, on ne peut pas même s'en extraire. Et donc les pièces pour piano pour enfants d'ailleurs, qui représentent une difficulté non négligeable. Parce qu'il ne faut pas croire que quand on écrit pour un enfant, ça semble facile. Ce mot de facile est irrécusable. Hein. Il faut au contraire qu'il y ait à la fois un état d'esprit, bien évidemment. On ne peut pas acquérir des choses sévères hein, pour l'enfant, ça c'est hors de question. Mais à partir de ce primeau, donc cette apparente facilité, il faut quand même qu'il y ait un raisonnement pour ne pas dévaloriser la capacité de l'enfant lui-même à écouter cette musique, puisque c'est de lui qu'elle vient à travers quelqu'un d'autre.
Alors, on va continuer notre cheminement, Lucien Gavinel, s'il vous voulez bien, pour peut-être aller vers une autre œuvre aussi importante qui va nous amener vers d'autres couleurs instrumentales. Je veux parler de cette œuvre de Métiatissé, qui est plutôt pour quintette avant et qui là donne une toute autre dimension aussi de votre écriture. Et peut-être avant d'en entendre quelques extraits dans quelques instants, peut-être nous dépeindre dans quel état d'esprit finalement cette œuvre a germé dans votre tête, de se dire tiens, d'écrire pour cet ensemble, d'organiser aussi cette écriture sur un certain nombre de pièces autour de cette idée où il y a de l'humour, où il y a vraiment à la fois des couleurs, des envolées aussi incroyables. Comment cette idée est venue pour vous de vous atteler à l'imagination, à l'écriture aussi, donc de cette pièce Médiatissée pour le quintet avant de Marseille, hein, justement.
Oui, je vous réponds volontiers. C'est, bon, le quintet avant, le mot vent,
déjà,
renvoie forcément à l'air.
Oui.
Je joue un peu sur les mots, mais je trouve que c'est toujours bien de jouer avec les mots. On a si peu d'occasions de jouer réellement qu'il ne faut pas se priver de celui-là. Donc, l'air et le vent, donc, qui est une seule et même chose, nous permet, dans une formation qui est tourbillonnaire par essence, je trouve que le quintet avant, c'est le volubile, c'est oui, le tourbillonnaire, un peu plus peut-être que d'autres choses comme le quatuor à cordes, qui a une sorte de sévérité différente, non moins avérée d'ailleurs, mais le quintet avant, le mot d'amusement vient. Bien que ce soit une affaire tout aussi sérieuse que d'écrire pour autre chose, et y compris le quatuor à cordes. Mais le mot « vent » qui nous emporte, ce vent de l'esprit, hein, je cite, hein,
bien sûr.
Et voilà, est une source d'inspiration, si le mot n'est pas prétentieux, dans la bouche d'un compositeur. En tout cas, la formation de vent, comme toutes les formations d'ailleurs, qui se sont alignées dans notre civilisation musicale, hein, je dis bien notre civilisation musicale, sont toutes venues de l'esprit. D'abord de l'esprit, parce qu'il a bien fallu que les hommes inventent des instruments, depuis la nuit des temps.
Depuis la nuit des temps,
et qu'à travers, on va résumer, on ne va pas remonter évidemment au plus haut de l'Antiquité, mais le fait même que les hommes aient eu besoin d'un souffle nouveau, je joue encore une fois sur le mot, a donné naissance à ces instruments dont l'air, la circulation de l'air et les principes. Comme au piano, il y a d'autres principes hein, qui sont des percussions sur des cordes,
absolument,
etc. Et donc une résonance. Voilà, donc les vents ont une littérature depuis, on ne va pas remonter au déluge bien sûr, ont une littérature qui s'est aguerrie, qui a donné lieu d'ailleurs à une évolution, simplement par l'évolution des instruments avant eux-mêmes.
Bien évidemment,
ils ont évolué comme tous les autres instruments. Aucun instrument n'est définitif, en gros. Hein,
Puis justement, c'est aussi une commande, effectivement, de l'Institut français, aussi, des instruments avant, pour cette pièce.
Bien sûr, ça
va bien dans le propos que vous évoquez.
Toute cette grande famille. Bien sûr, bien sûr. Mais vive l'esprit de famille. Et donc, les vents, par eux-mêmes, je n'invente rien, hein, j'enfonce une porte ouverte, on manifeste un intérêt immédiat, on peut dire que c'est une musique qui a du souffle par définition, et par conséquent, on y trouve le même plaisir que d'ailleurs l'orchestre a bien associé les instruments avant aux instruments à cordes, hein, voilà, et peut-être on a même commencé par les instruments avant. Hein, voilà. Donc, c'est une source inépuisable, pratiquement comme toutes les sources musicales d'ailleurs, toutes les sources qui viennent de la sensibilité, de l'intelligence, de la connaissance, bien entendu, de l'approche. En tout, il faut une approche. Et la mienne, elle n'a pas manqué d'intervenir, sinon je n'aurais rien fait. Hein, parce que je ne souffle pas, moi, dans un instrument avant, je ne sais pas le faire. Mais pour tout, il faut préparer, il faut étudier, comme à l'école. À l'école, nous sommes à l'école, et voilà. Et donc, j'ai eu grand plaisir à écrire des pièces pour instruments avant. J'avais la chance à Marseille d'avoir un ensemble avéré.
Voilà. C'est ça, oui, de très grande qualité.
J'aurais dû faire une autre carrière, d'ailleurs, s'il n'avait pas été à Marseille, mais Marseille est toujours un peu sous-jacent. C'est dans l'air du temps. Et donc, ces jeunes gens qui ont été mes partenaires et qui sont devenus des très grands amis, je dois le dire, m'ont encouragé à écrire pour eux et je m'y suis prêté. Alors, en tâtonnant, bien entendu, au départ.
Bien sûr, oui, c'est de la découverte aussi.
D'ailleurs, la musique, c'est un tâtonnement permanent. C'est l'écriture à main levée, comme on dit. Hein. Ça, ce sont des images qui me font un peu douter de tout. Hein. L'écriture même de l'homme, ça ne se fait pas comme ça.
C'est tout un travail. Oui.
Il faut être calme, il faut être pondéré, il faut aller au fond de soi-même le plus possible, et puis au fond de tout ce qu'on peut voir, de tout ce qu'on a pu entendre, qui donne une germination, qui est l'écriture, tout simplement, l'écriture, voilà. Alors qu'elle soit pour instrument avant, pour orchestre, pour piano, pour un violon, c'est toujours le principe d'une écriture, une transformation d'un son élémentaire en son composé, plus riche, et qui donne ce que nous savons.
Alors, je vous propose, Lucien Guérinel, qu'on écoute différents mouvements donc de cette pièce médiatisée, écrite en 2008, commande de l'Institut français des instruments avant, association créée par le quintet d'ailleurs de Marseille, pour le concours international de quintet avant, Henri Tomasi, qui l'organise en biennale. Donc voici médiatisée. Résonance sur Radio B, entretien à deux voix avec Lucien Guérinel. Et nous venons d'entendre, après Lucien Guérinel nous avoir introduit par ses mots et votre réflexion, cette pièce de Médiatissé. Donc nous avons pu entendre tout d'abord une publicité, suivie de une extase d'eau décaféinée, ensuite message indésirable et enfin une petite litanie. Alors là, on vient de parler de l'univers des cuivres et de tout cet attrait aussi dans ses couleurs, dans cette rythmicité aussi, on a pu l'entendre au travers de ces pièces. Il y a aussi beaucoup d'humour dans toutes ces pièces aussi également. Pour essayer d'aller vers une autre pièce, un autre univers, et là, je veux parler plutôt de l'univers déjà des cordes, avec une pièce qui... enfin, en tout cas, qui englobe 11 instruments, et qui s'intitule « Undici per Undici ». Elle a donc une autre facture, une pièce très enlevée aussi, très, très dynamique, très riche dans tous ses aspects, et là aussi, rencontre aussi, puisque la chef d'orchestre aussi est la femme aussi d'un autre compositeur, Patrice Fouillot, avec lequel vous avez eu beaucoup de relations, et c'est celle-ci qui dirige l'orchestre. Alors là aussi, comment est venue l'écriture aussi de cette pièce pour ces 11 instruments, per undici?
Bien, parce que ma très heureuse rencontre avec ce compositeur et son épouse italienne, comme son nom l'indique, mais qui est elle-même compositrice, donc une rencontre de tout premier ordre sur le plan à la fois du sentiment et du partage artistique qui est le nôtre. Elle était donc, son mari étant le directeur du conservatoire de, je vais évidemment, mon âge y aidant oublier le
nom du conservatoire
du conservatoire dans la région parisienne, dont il était directeur, et elle était maîtresse d'œuvre dans
c'est l'ensemble Artédier, hein, qui voilà.
En particulier, elle tenait un ensemble instrumental, et elle-même étant compositrice, donc vous voyez l'application que pouvait être ce travail d'orchestre au sein d'un conservatoire.
C'est le conservatoire donc de Villeneuve-le-Roi.
Voilà, Villeneuve-le-Roi. Voilà.
Et donc la compositrice et chef d'orchestre qui a dirigé votre œuvre, Undici per Undici, c'est donc Teresa Ida Blotta.
Voilà, absolument. C'est une très charmante personne. Et un jour, donc, ils ont eu la gentillesse de me demander d'écrire pour eux, pour cet ensemble. Et alors, les choses ont eu lieu, parce que... d'avoir été en France, il y a quand même des choses qui se passent normalement. Et bon, avec travail, bien sûr, tout ça, je passe dessus. Et un beau jour, donc, a eu lieu la création dans ce conservatoire, avec donc l'ensemble de ce conservatoire que dirigeait Ida Blotta, et auquel j'ai assisté, bien entendu, avec mon épouse. Et ça a donné ce résultat, donc, qu'on a... conservé sur CD, je pense. Hein.
Oui, tout à fait. Voilà, voilà. Tout à fait. D'ailleurs, nous aurons l'occasion de l'entendre dans quelques instants,
voilà,
cette œuvre-là.
Je trouvais que l'exécution de cette partition notoirement difficile. Hein.
Oui, on l'entend. Voilà, oui. Vous verrez, chers auditeurs et auditrices.
Oui. Tout difficile, c'est pas, c'est, je ne fais pas exprès, mais c'est comme ça. Voilà. Puis de toute façon, la musique, c'est toujours difficile. Hein. Les pièces d'enfants, pour y commencer, sont des choses très difficiles, à la fois dans l'esprit et même dans les doigts, dans le toucher, dans tout. Tout est difficile dans la vie. Mais les choses se méritent, donc il n'y a rien à dire. C'est le travail. Hein, c'est, on est le piolet dans la roche. Et il faut essayer de monter. Voilà. Alors, bon, cette pièce, j'ai écrit ce que je l'aime. En tout cas, elle a plu à cette jeune personne de moi. Elle n'a pas 20 ans, hein, bien sûr, mais enfin, elle n'a pas mon âge non plus. Hein,
voilà. Oui, une pièce que vous avez écrite en 1999. Ouais. Hein.
C'est une compositrice qui peut être largement ma fille. Voilà. Et elle a un savoir-faire, et puis un sens du devoir. J'aime bien ça, même pour les chefs d'orchestre, pourquoi pas, il y a un devoir. Hein. Et ce devoir, il faut l'accomplir, la musique étant ce qu'elle est, c'est-à-dire la chose la plus difficile du monde. Voilà, il n'y a pas de doute là-dessus. Donc, cette pièce étant en soi-même difficile, ils ont réussi à faire un enregistrement, et qu'on a converti, d'ailleurs, je crois, sur un
CD. Tout à fait, hein, absolument. Voilà,
tout simplement.
Absolument.
Et ce n'est pas si mal, parce que ce n'est pas les choses avec les grands tralala, comme certains endroits, on dispose de 40 répétitions, de machin, des fins. Non, c'est, on prépare, on joue, et puis voilà. Puis c'est, après, il y a peut-être des petites machines qui sont derrière, qu'on rectifie, comme dans toutes les préparations d'enregistrement sur disque. Mais c'est... C'est presque du premier jet, hein, tout ça. Hein.
Ça veut dire
un travail préparatoire, bien entendu.
Bien entendu, oui.
Mais voilà, on ne revient pas dessus pour racoler les morceaux qui ne vont pas. Hein.
On est loin un petit peu de l'état d'esprit si on repense à Ludwig van Beethoven qui réclamait une quarantaine de répétitions pour ses symphonies, en tout cas.
Oui, bien sûr. C'est souhaitable. Ben, dans les grandes affaires, je ne dis pas que ce n'est pas souhaitable. Attention, la question n'est pas là. Mais la vie est difficile,
c'est
pas une beauté. Même quand on est dans un conservatoire, on ne fait pas tout avec la baguette magique. Et,
hein, voilà, ça n'existe
pas. Puis il y a le temps qui passe. L'argent que ça représente pour ceux qui le font, donc il faut être raisonnable. Et rien n'est bâclé pour autant.
Bien évidemment. Il y a le sérieux et la compétence des musiciens.
Bon, les musiciens, quand même,
bien évidemment.
Ils enregistrent bien. Hein.
Tout à fait.
Il suffit de les entendre. Chaque groupe d'instruments, ce sont des professionnels, ce sont des gens qui jouent de la musique. Ils n'ont pas besoin de faire 36 fois les mêmes choses. Hein. Alors après, les petits détails, je ne sais même pas si je suis intervenu dans les détails. Moi, là, je ne me rappelle plus exactement comment
c'est. Mais c'est lointain, passé. Là, déjà, oui.
Mais comme on était un peu loin, géographiquement, non, ça se passe bien quand même. Hein. La musique, il ne faut pas s'imaginer qu'il faut quand même faire 40 fois les mêmes choses. Hein. Ou alors c'est en circonstances particulières, ou... enfin bref, chacun fait ce qu'il veut de toute façon, ou ce qu'il peut. Voilà, là nous avons fait ça. Moi, cet enregistrement, je l'ai trouvé enthousiasmant, tout simplement. Je parle de la réalité.
Oui, bien sûr.
Tous ces musiciens se sont investis. Je n'ai pas connu d'ailleurs de musiciens qui ne s'investissent pas. Il ne faut pas exagérer quand même, le laisser aller, il y en a partout, mais pas là. Hein, dans la musique, les gens sont quand même sérieux, hein, ils s'appliquent, ils ont leur dignité à défendre individuellement et collectivement. Ça suffit, ça marche. On travaille et ça avance. Les chefs d'orchestre font le travail.
Oui, c'est ça.
Pas besoin d'ajouter des pointillés ou je ne sais quoi. Voilà.
Alors écoutons ensemble donc Undici per Undici, donc 11 minutes pour 11 instrumentistes.
Voilà. Il y a un petit jeu de mots,
voilà,
et
tout
comme
à fait.
La chef d'orchestre
était italienne, étant italienne, voilà, c'était tout bienvenu.
Voilà, un hommage.
Donc voici Undici per Undici. Thank you.
Thank you. Thank you.
Résonance sur Radio B, entretien à deux voix avec Lucien Guérinel. Et là, donc, nous avons entendu Undici per Undici, interprété par l'ensemble Artédier, placé sous la direction de Teresa Ida Blotta. Donc, ensemble situé au Conservatoire de Villeneuve-le-Roi. Donc, nous venons d'entendre cette pièce magnifique, pleine de... qui s'inscrit dans une durée, mais avec une vitalité extrêmement incroyable aussi dans votre manière de concevoir l'espace sonore et du rapport aussi de cet espace sonore, pour maintenant aller vers une autre pièce qui est importante aussi pour vous à vos yeux, qui touche aussi les cordes, les pièces pour violoncelle, Petit Visage. Là, on tombe dans un autre registre, on tombe dans une autre écriture. Les cordes, ça a aussi toujours été un endroit aussi pour vous important dans votre démarche compositionnelle, et notamment aussi le violoncelle, parce que c'était marqué aussi par des rencontres. Là, encore une fois, vous l'évoquiez tout à l'heure dans le travail avec justement Madame Blotta, mais aussi on parlait du quintet avant tout à l'heure, ou de Jean-Louis Roblin aussi. Donc là aussi, les rencontres sont toujours au cœur, bien sûr, de vos travaux d'écriture. Et là, c'est la rencontre aussi avec d'autres violoncellistes qui vous ont amené aussi à imaginer et à écrire ce cycle de pièces.
Notre très chère amie marseillaise, qui est une bordelaise en réalité, mais enfin qui a fait sa vie professionnelle à Marseille, que j'avais rencontrée, qui est Geneviève Tellière, qui m'a tout dit du violoncelle au départ. C'est pour ça que j'ai beaucoup écrit pour le violoncelle.
Et là,
de cette rencontre.
On va évoquer Petit Visage pour quatre violoncelles. Hein. C'est un ensemble. C'est pas souvent d'ailleurs que l'on met en présence quatre violoncelles.
Non,
aussi.
Mais là, c'était aussi le fruit d'une rencontre à Arras, si j'ai bonne mémoire, où il y avait à l'époque un concours de composition.
Pour violoncelle.
Où j'avais rencontré une formation majeure, puisqu'il s'agissait de quatre des violoncellistes de Berlin.
Oui, donc
la Philharmonique de Berlin. Et c'est pour eux que j'ai écrit cette pièce, parce que on a sympathisé, que ces quatre garçons étaient des quatre charmants garçons, vraiment charmants, hein, au meilleur sens du terme, et puis en plus brillants. Et j'ai écrit pour eux cette pièce, qu'ils ont d'ailleurs créé, je crois, en Allemagne, pas je crois, parce que j'y étais, mais je crois que c'était, je veux dire je crois, parce que je ne me rappelle plus si c'était le jour de la création ou pas, mais il me semble que c'était la création, dans le beau château de Ludwigsburg, en Allemagne, et on a beaucoup sympathisé, j'ai gardé des relations pendant longtemps avec eux, jusqu'il n'y a pas tellement longtemps d'ailleurs, et ben, on a fait autre chose après avec ces quatre musiciens, de tout premier plan. Alors évidemment, ça fonctionne.
Oui, puisque vous avez aussi écrit pour violoncelle seule aussi.
Oui, bien sûr, j'ai écrit pour Geneviève Tellière, pour son ensemble, parce qu'elle avait un bel ensemble au Conservatoire de Marseille, avec lequel elle travaillait beaucoup, elle a fait beaucoup de prestations, donc j'ai écrit une pièce pour cet ensemble-là, de 12 violoncelles. Ça a été une grande partie de ma vie, dans le milieu de ma vie, et donc, j'ai appris ce qu'est le violoncelle, hein, parce je n'en avais qu'une impression comme ça, comme tout le monde. Mais après, il faut rentrer dans le vif d'un instrument,
c'est toute une approche.
C'est un territoire, hein.
Oui, voilà, c'est ça, c'est tout un territoire.
Le pyramide est grand, hein, tous les instruments ont leur territoire, et le violoncelle, qui est peut-être le plus vaste des instruments à cordes, n'en demande pas moins.
Mais qu'est-ce que vous en diriez justement de cette approche, maintenant d'avoir écrit plusieurs pièces pour violoncelle? Où est-ce qu'il vous parle à cet endroit, cet instrument-là? De quelle manière il vous parle?
D'abord parce que le violoncelle pour lui-même déjà est par sa, j'allais dire, sa corpulence. On me pardonnera.
Oui, oui, oui.
Laissons le mot corpulence, pourquoi pas.
Le fait qu'on le porte voilà. sur soi, a, le fait que...
Voilà, c'est une belle ouais. dame. Mmh. C'est celui qui va bas, ouais. et c'est celui qui monte haut.
Haut, aussi.
Et là, ouais. tout pour lui. Avec le violon aussi, il descend, mais enfin, il s'arrête au milieu
aussi bas, même, voilà, c'est
du clavier du piano, parce que le violoncelle lui descend dans les frais.
Il va jusqu'aux enfin, extrêmes. Bref,
l'instrument, c'est quand même celui qui a la, la plus grande capacité, la plus grande, le plus grand ambitus pour employer un mot un peu professionnel. Bien. Alors donc, je ne prends à rien à personne, le violoncelle, c'est magnifique. Mais ça n'empêche pas que je suis spécialement amoureux de l'alto, pour ce qui vous concerne. Et je ne peux pas ne pas aimer le violon comme tout le monde, parce que c'est quand même le prince de l'orchestre, déjà, et puis même en tant qu'instrument lui-même. Bon, alors bon, les instruments à cordes, de toute façon, c'est le paradis. Voilà. Alors, évidemment, quand vous êtes auprès d'une instrumentiste qui sait tout de son instrument, qui est une instrumentiste professionnel, professeur au conservatoire, qui est concertiste, etc. Bon, donc ça donne forcément une ouverture, hein, d'ailleurs, pour tout l'orchestre. Moi, ma vie de compositeur, l'approche des instrumentistes. Hein.
Bien sûr.
Je ne connais pas le trombone, je ne connais pas. etc. Je ne connais aucun. Je ne pratique modestement que le piano, donc je ne sais pas autre chose. Et encore, est-ce que je sais quelque chose du piano? Je ne sais même pas. Bon, on parle.
Vu ce qu'on a entendu tout à l'heure, quand même.
Bon. Bon, d'accord, bien sûr. Bien. Enfin, voilà, il faut rester humble et les instruments, personne ne les connaît jamais dans l'intégrale, si je puis dire, à part les grands professionnels de l'orchestre et des solistes, bien entendu, bien sûr.
Alors peut-être allons-nous écouter maintenant donc des extraits, pas l'intégralité du cycle de cette pièce pour quatre violoncelles, Petit Visage, une pièce donc que vous avez écrite en 1993, et nous allons entendre successivement le numéro 1, le numéro 2, le 5, le 6 et le 7.
Thank you.
Résonance sur Radio B, entretien à deux voix avec Lucien Guérinel. Voilà, cher Lucien Guérinel, nous venons d'entendre donc ces pièces pour violoncelle, intitulée « Petit visage » pour quatre violoncelles, pièce de 1993. Donc voilà, nous arrivons un petit peu au terme de cet entretien à deux voix qui, j'espère, aura permis à vous, chers auditeurs et auditrices, d'ouvrir quelques fenêtres justement, à la fois le travail de compositeur, le cheminement de compositeur, qui est celui de Lucien Guérinel, mais qui, au travers de ce qu'il a pu nous confier aujourd'hui, nous fait entrevoir aussi de ce que chacun qui s'essaye à s'aventurer dans l'écriture musicale se pose comme question, chemine, arbore, découvre, manie le matériau aussi, que sont toute cette diversité de l'offre sonore et instrumentale qui est là aujourd'hui, et que c'est passionnant aussi de s'aventurer de cette manière-là sur les chemins de la musique. Donc voilà, on aura l'occasion aussi, Lucien Guérinel, de refaire un point et de revisiter certaines facettes aussi de votre parcours, qui est multiple. Il y a tout le côté poétique aussi également, bien évidemment, qui est aussi très riche et important pour vous. On n'a pas entendu la voix, mais il est à noter aussi que dans votre catalogue d'œuvres, il y a un grand nombre d'œuvres pour la voix qui a été aussi pour vous un attrait énorme aussi dans votre travail d'écriture.
Un intérêt premier, la voix restant le miracle que l'on sait, quand ça marche bien, bien sûr.
En tout cas, merci de nous avoir accordé ce moment, Lucien Guérinel. J'espère que, chers auditrices et auditeurs, vous avez eu plaisir à nous accompagner, à nous suivre au fil de cette conversation. À bientôt, Lucien Guérinel.
À bientôt et merci pour votre accueil.
Résonance sera diffusée mardi prochain de 13h à 14h, puis dimanche de 20h à 21h. Écoutez, podcastez quand vous le souhaitez sur le site de Résonance Contemporaine, www.résonancecontemporaine.org, ou sur le site de Radio B, www.radio-b.fr. Merci de nous avoir accueillis chez vous. À très bientôt sur Radio B.